15h, ben pile, dans le retour à Boulevard 102.1. Antonine Iacarini, Max Larouche, Mathias Turcotte qui vous accompagnent en ce mercredi. Où dans l'actualité, il y a quelques trucs qui retiennent l'attention, mais un des gros morceaux de cette journée d'actualité, c'est cette nouvelle concession, Antonine, d'Ottawa face à Donald Trump.
Non, là!
Ouais, ben c'est ça. Mark Carney nous dit que ça n'a pas rapport.
Non, c'est pas une concession. Ceci n'est pas une concession.
Mark Carney, qui, devant les journalistes un petit peu plus tôt, qui a mentionné que ce retrait de la fameuse taxe Netflix, c'est une décision qui est prise depuis un bon bout de temps.
Nous avons décidé juste après la décision de CRTC que c'est une question, et je viens de le dire, le gouvernement fédéral consente sur l'abordabilité sans relâche. Et la forte augmentation des primes pour des streamers, c'est pas acceptable dans la situation.
Donc, la vraie raison, Antonine, de pourquoi on retire cette taxe Netflix-là, c'est pour l'abordabilité. C'est pour l'abordabilité. C'est parce que ça coûte cher aux citoyens d'avoir Netflix.
Ce qui n'est pas faux dans les faits, mais nous ne sommes pas des valises.
On va le prendre, là, de payer quelques cents de moins sur notre Netflix.
Ouais, parce que faut dire, il y avait comme une double taxe qui s'était rajoutée dans les dernières années, des décisions qui avaient été prises sous le gouvernement de Justin Trudeau, de non seulement taxer les abonnements, donc une partie des abonnements et un montant là, qui était pris là. Pourquoi? Pour subventionner les productions canadiennes, la culture canadienne, qui est en sous-financement continuellement, puis même redonner une partie de l'argent peut-être à des médias traditionnels qui ont de la difficulté, etc., etc. Bref, de l'argent que le gouvernement allait chercher pour ça. Mais il y a aussi une redevance qui était demandée directement. La taxe, c'est nous qui la payons avec nos abonnements. Ça a été annulé il y a quelque temps. Mais il y avait une redevance.
Parce que ça, c'était pas bon pour l'abordabilité.
C'était pas bon pour l'abordabilité. Donc, il y avait aussi cette décision du CRTC parce que le gouvernement Trudeau avait autorisé le CRTC à charger directement aux grandes plateformes, que ce soit Disney+, Netflix, Prime, etc., un montant de leur choix parce que le CRTC est plus ou moins souverain de prendre ces décisions-là. Ce n'est pas un organisme de consultation. Le CRTC, c'est un tribunal et ils ont un pouvoir là, d'exécuter des politiques comme celle-là.
Donc, cette redevance-là, bon, on s'entend directement, devait être payée par les géants comme Netflix et tout ça.
Donc, c'était 5 % des revenus qu'ils font au Canada.
Ça, évidemment, ils vont pas le repasser sur notre dos, là.
Bien, ils peuvent toujours le transférer, bien sûr. Mais le printemps dernier, coup de théâtre, le CRTC dit « Ouais, finalement, il faudrait que ce soit 15 %. » Quand on a vu cette nouvelle-là arriver, c'est sûr que tout le monde s'est dit « Ouais, quel excellent timing, étant donné qu'on a été obligé, je mets obligé entre guillemets, d'annuler la taxe Netflix l'été dernier pour que les négociations de libre-échange pour essayer de faire annuler les tarifs de Donald Trump se poursuivent. Puisqu'on se rappelle que Donald Trump avait fait une publication sur Truth disant que si cette taxe-là n'était pas retirée, ben, il n'y avait juste pas de négociation. Et ce à quoi Mark Carney a répondu à la positive. Et on a reculé, on a fait cette concession-là en échange de rien d'autre que peut-être continuer les négociations. Est-ce que depuis un an, il y a eu de l'avancement dans les négociations? La réponse est non. Donc, c'est sûr que la pression politique augmente présentement sur le gouvernement Carney parce qu'on donne des choses et on ne reçoit strictement rien en échange. En même temps, si le gouvernement du Canada disait « Ben, nous, on s'en fout, on garde la taxe pareille », est-ce que ça permettrait, est-ce que ça couperait toute perspective d'entente? Ben, la question se pose. Mais en ce moment, c'est ça le problème aussi avec Donald Trump, c'est que même quand on lui donne quelque chose, il ne nous récompense pas.
Non, c'est ça.
Il faudrait qu'il nous donne un petit nanan là, pour qu'on continue d'y donner quelque chose.
Ça n'a jamais rien donné à date.
Ça laisse l'impression qu'on devrait continuer de faire ce qu'on fait parce que de toute façon, le résultat sera le même. Mais dans la réalité, on ne le saurait pas. On ne saurait pas si Donald Trump nous aurait donné quelque chose ou si les négociations auraient mieux avancé. Donc, politiquement, c'est quand même une situation qui est périlleuse pour le gouvernement Carney. Donc, c'est un autre recul. Cette redevance-là qui est demandée aux grandes plateformes sera annulée. Elle devait passer de 5 à 15 %. Et là, ce qu'on apprend, c'est que même le 5 %, c'est un no-go.
Puis c'est, je veux dire, peu importe que tu sois un citoyen ou un analyste, tu regardes ça puis tu te dis c'est une concession à Donald Trump. Pourquoi le premier ministre Carney ne l'assume tout simplement pas?
Ben, il peut pas commencer à dire ça. Puis faut dire, tu sais, dans un sens, le timing était très mauvais. Parce qu'on le sait que c'est vraiment un enjeu complexe de taxer ces géants du web-là qui sont des multinationales, que c'est pas très clair exactement qui doit les imposer à quel endroit. Puis on avait une des politiques les plus sévères, entre guillemets, les plus innovantes. Là, on peut prendre le côté négatif ou positif selon si on est d'accord ou pas. Mais le Canada avait décidé de poser un geste quand même audacieux. On rappelle aussi que le Canada avait essayé de taxer les plateformes de médias sociaux, donc Facebook, Meta également. On a vu ce que ça a donné. On voulait leur demander des sous pour justement payer et subventionner les médias traditionnels. Et tout ce que Meta a fait, finalement, c'est de bloquer les nouvelles des médias traditionnels sur les médias sociaux, sur ces plateformes.
Je suis en train de lire un texte de la presse canadienne, puis la nouvelle évolue comme en direct parce que on se rend compte qu'il n'y a rien de clair dans ce qui est annoncé par le gouvernement. On dit que le bureau du procureur général, dans un document daté du 17 juillet, disait ceci. « Nous avons pour instruction d'informer le tribunal que l'intention du gouvernement est de supprimer l'obligation de contribution de base imposée aux services de diffusion en continu et de fournir un financement public pour remplacer ces contributions. » Donc, ce montant-là sera remplacé par nos taxes, en gros. Là.
Exact.
Mais là, c'est l'Association canadienne des radiodiffuseurs qui dit aujourd'hui que c'est pas ça le message qu'elle a reçu du gouvernement. Kevin Desjardins, qui est président de l'association, par communiqué, dit « Le libellé de la lettre ne correspond pas à ce que nous avons entendu de la part du gouvernement et nous estimons qu'il serait prématuré de tirer des conclusions définitives de cette communication administrative entre la Cour et l'un des défendeurs. » Fait que là, on est allé demander du côté de la presse canadienne à Mark Miller, qui est le ministre de la Culture, est-ce qu'on peut avoir plus de détails, avoir des clarifications. Et tout ce qui a été dit à la presse canadienne, c'est comme nous l'avons annoncé en juin, nous élaborons une nouvelle orientation politique. Nous n'avons rien à dire de plus en ce moment.
Incroyable quand même à quel point ils peuvent répondre des paroles vides puis rien répondre et que ça fera même pas vraiment de scandale, j'en suis persuadée. Est-ce que la stratégie, c'est d'envoyer un message aux États-Unis que oui, c'est une concession puis on vous donne ça? Mais que dans les faits, la communication qu'il y a à l'interne, c'est « attendons de voir, on continue un peu comme si de rien n'était, peut-être qu'on va repousser la mise en application ». C'est fort possible.
Mais moi, de ce que je comprends, c'est qu'à l'époque, on avait donné à 600 millions. Quand on avait dit « ça va pas être 15 %, ça va être 5 %». Le gouvernement fédéral avait dit en échange « on va vous donner 600 millions ». Moi, de ce que je comprends, de ce que le CRTC a dit... c'est qu'on voudrait peut-être rajouter par-dessus 600 millions. Fait que de retirer 5 % puis de financer...
En fait, c'est pas compliqué, là. C'est tout des vases communicants, cette affaire-là. Si vous demandez pas d'argent aux GAFAM, ben là, pour subventionner ce qu'on voulait subventionner à partir de cet argent-là, c'est-à-dire les productions canadiennes, ça va venir de nos poches à nous. Donc, celle du gouvernement fédéral, puis donc nos taxes et nos impôts. C'est pas compliqué. Monsieur Trump, il ne veut... qu'on n'impose aucune taxe à ces entreprises. Donc, c'est pas compliqué, là. Même si on fait des faux-semblants puis qu'on dit « Ouais, mais non, mais on va transférer. » Il y a deux options. Soit que c'est les Amazon et les Netflix de ce monde qui payent, ou soit que c'est nous, là. Ou alors on coupe dans les productions canadiennes.
J'avais une dernière question pour toi, Antonine, parce qu'on a vu justement le fédéral... potentiellement se retirer de ça. Mathieu Lacombe, il y a de ça un peu plus qu'un mois, avait affirmé dans les médias, si le fédéral n'impose pas de taxes pour les géants américains comme Netflix puis tout, on va pas s'empêcher au Québec de faire nous-mêmes. Est-ce qu'on pourrait voir Mathieu Lacombe ressortir, dire « OK, ben si le fédéral ne le fait pas, on impose notre propre taxe. »
C'est quand même compliqué pour le Québec d'imposer des taxes comme celle-là, des multinationales, des entreprises américaines. C'est pas impossible, mais... T'sais, vous l'avez vu, là. Quand Meta s'est fait imposer des redevances pour les médias...
C'est beau, il n'y en aura plus de nouvelles.
Ils ont répliqué. Donc, c'est le Far West en ce moment.
Ils nous ont montré qu'on était trop petits pour eux autres puis pas assez importants pour qu'ils se fassent chier à nous donner des redevances.
Oui, puis le Canada, là, on parle même pas du Québec, là, on parle du Canada. Donc, puis à partir du moment où le président des États-Unis est copain-copain avec ces entreprises-là, il se fait le porte-parole de ces entreprises-là et qu'on est dans une négociation pour du libre-échange, honnêtement, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de nouvelle taxe qui va être mise en application tant qu'il n'y a pas un nouvel accord de libre-échange qui est négocié. Puis, tu sais, là, on parle de nouvelles taxes qui n'existaient pas avant. Mais il y a des choses beaucoup plus fondamentales qui sont en danger en ce moment dans la renégociation d'un accord de libre-échange qui seraient non seulement pas des gains, mais qui seraient des pertes. On peut penser évidemment à nos politiques en agriculture, des politiques environnementales, des politiques culturelles que le président Trump a dans sa main. Donc, honnêtement, même si on peut ne pas apprécier M. Carney puis dire qu'il n'y a rien accompli, moi, je comprends à un moment donné que c'est pas le temps d'en rajouter. Est-ce que... Puis c'est vraiment une question de rhétorique, mais est-ce que c'est vraiment un recul? C'est pas son recul à M. Carney parce que c'était pas sa politique. C'est des politiques qui ont été faites sous Trudeau alors que c'était Joe Biden qui était président. Le contexte a quand même relativement changé.
Un petit peu.
Maintenant, on peut débattre sur est-ce qu'on est trop mou face aux États-Unis? Absolument. Mais moi, je pense qu'on doit d'abord préserver nos acquis actuels avant d'essayer de passer des lois qui, partout dans le monde, en passant les lois sur les géants numériques, là, c'est un casse-tête pour y arriver. Je ne suis pas sûre que le Canada, en ce moment, est bien positionné pour être le plus novateur en la matière.
Tu parlais du fait de peut-être être trop mou, ou bon, c'est un débat qui existait. Charles Milliard du Parti libéral du Québec a présenté ce matin sa vision pour les relations canadiennes devant évidemment un président comme Donald Trump qui vient un peu dicter tout ce qui se passe au pays en ce moment. Et Charles Milliard a été questionné par les journalistes sur la bonne façon, selon lui, d'aborder cette, entre guillemets, guerre tarifaire-là. Puis lui, il est plus du côté tout doux, là.
T'sais, oui.
On fait pas, non, mais on se concentre sur ce qu'on peut faire à l'interne du Canada, des relations entre les provinces et tout ça.
Construire des alliances.
Ouais, mais d'un autre côté, il a été questionné sur l'électricité du Québec qu'on envoyait aux États-Unis, puis il a pas fermé la porte à utiliser ça comme outil, comme moyen de pression éventuellement, dit qu'il faut rien exclure. Souvent, Charles Milliard, il est encore exactement sur cette ligne-là de...
J'exclus rien, mais je fais rien, ouais, mais j'exclus
mais,
pas.
C'est pas dangereux, puis on posera la question un petit peu plus tard à Julie White, qui est candidate libérale dans Jean Talon, mais moi, je trouve que ça vient encore montrer cette image-là de Charles Milliard de... Il sait pas trop où est-ce qu'il s'en va, il garde les portes ouvertes à toutes, puis...
Ben moi, je trouve que c'est un problème, là. D'ailleurs, juste sur le fond des choses, commencer à jouer avec les questions énergétiques comme levier de négociation avec les États-Unis, autant je suis pour la ligne dure de ne pas donner toutes sortes de concessions parce qu'on n'aura rien en échange. Là. Moi, je pense qu'il faut qu'on retienne notre souffle, qu'on soit bien patient puis qu'on accepte qu'il va y avoir des moments désagréables. Cela dit, si vous voulez commencer à menacer les Américains de couper le courant, là, on tombe dans un enjeu de sécurité nationale. Les Américains, pour eux, l'énergie, si on leur coupe l'énergie, là, puis j'ai entendu des gens dire ça, là, Doug Ford
ben,
a
Doug
dit
Ford,
des
oui,
affaires
oui.
de même. Si vous coupez l'énergie aux Américains, là, c'est vrai qu'ils vont être, tu sais, les folies d'annexion, là, puis de 51e État, là. Je sais pas si vous êtes, si vous avez déjà entendu parler de la grosse panne d'électricité qu'il y a eu à New York dans les années 70. C'est une panne qui a duré un certain nombre d'heures, là, quelque chose comme 2-3 jours, OK? Et ça a mis un tel chaos à New York qu'il y a des quartiers qui s'en sont jamais remis.
25 heures du 13 au 14 bon. Juillet 77.
Ça, là, ça a marqué beaucoup l'esprit des Américains parce que pendant ces heures-là où il n'y avait pas d'électricité à New York, une des plus grosses villes, si ce n'est pas la plus grosse ville aux États-Unis, il s'est mis à avoir ben, des enjeux de sécurité importants. Les policiers ont perdu le contrôle. Les magasins ont été pillés.
Hey, 4 000 arrestations.
4 000 arrestations. Et il y a vraiment des conséquences qui sont restées pendant des décennies dans certains quartiers de New York qui ont vu des gestes criminels qui ont été posés. Donc, dites-vous bien que manquer d'énergie, là, c'est pas quelque chose que les Américains vont accepter. Ça veut pas dire qu'il faut tout leur donner, mais les ententes qu'on a déjà signées avec eux, on ne peut pas là, commencer à jouer avec ça, même si ça nous ferait plaisir, même si des fois, on aurait envie de les envoyer promener parce qu'on est fâché.
Mais de mettre une surtaxe, c'est sans dire qu'on va couper l'électricité, de dire ben on vous met une taxe de 25%.
Ben en fait, c'est que les ententes déjà signées,
tu touches pas ça. Mais Trump s'en fout, lui. Trump, il touche les ententes déjà signées.
Oui, mais là, ça, c'est une autre affaire. c'est que les Américains se sont construits une réputation en ce moment à cause de leur président d'un partenaire économique non fiable. Le Canada ne peut pas commencer à faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout y donner, là. On ne donnera pas gratis, on ne fera pas des rabais. Mais l'entente qui est déjà signée pour l'électricité dans le nord-est des États-Unis, tu touches pas à ça, là.
On va en parler, comme je vous disais, de tout ça un petit peu plus tard avec Julie White, candidate du Parti libéral du Québec dans Jean Talon. Charles Milliard qui présentait ce matin sa vision des relations canadiennes. Pour revenir au point de presse donné un petit peu plus tôt par Mark Carney, c'est dans le cadre d'une autre annonce par rapport, mais il a été questionné par rapport au timing des élections partielles et particulièrement sur l'élection partielle de Chicoutimi-le-Fjord, alors qu'on va être en campagne électorale au Québec. Voici ce que Mark Carney avait à dire sur le timing des partiels qui est très critiqué.
Premièrement, il y a un Parlement, ça vaut mieux d'avoir des députés au Parlement. Et c'est, en ce qui concerne les citoyennes et citoyennes de Chicoutimi-le-Fort, il n'y en a plus de députés pour le moment. Alors...
Ah, ben c'est pour ça. C'est parce que ça prend un député dans Chicoutimi-le-Fort.
Oui, exact.
C'est pour ça.
Exactement. C'est quand même ironique d'entendre Mark Carney dire que ça presse vraiment d'avoir un député qui soit présent aux communes cet automne, alors qu'un, lui, n'est jamais là. Il y a des données qu'on a sorties. Il a manqué 70 % des périodes de questions depuis qu'il est premier ministre. Et que, deuxièmement, c'est lui qui a nommé Richard Martel comme sénateur. Et, troisièmement, il y a d'autres élections partielles qui ne sont pas déclenchées. Ça, c'est pas grave. Pas grave, les autres. On est d'accord?
C'est vraiment la réponse facile de dire... Y en a-tu qui achètent ça?
Moi, je pense que les gens sont pas dupes. Mais en ce moment, là, tu sais, on regarde encore les taux de popularité de Mark Carney. Ils se disent, ouais, il est un peu plein de... mais on n'a pas mieux. Fait que on va... S'il est capable de nous régler ça avec les Américains, là... Je suis prêt à accepter qu'une fois de temps en temps, les institutions, puis la démocratie, puis dire la vérité. Là.
Qu'est-ce que tu as pensé des lignes de communication du Parti conservateur du Canada qui présentait aujourd'hui son candidat dans Chicoutimi-le-Fjord? Justement, on écoutait ce midi le point de presse où Pierre Paulus a pris beaucoup de place de ce qu'on a vu. Là.
On a misé sur l'expérience de Pierre Paulus pour prendre quand même pas mal de place, passer les messages. Du côté du candidat Régis Godreau, qui est un bon candidat en passant, là. Je pense que c'est très similaire à la personne qui est présentée par les libéraux en termes de calibre. Les messages qu'ils ont voulu passer, c'est que, ben, premièrement, les messages très classiques, puis sont bons là-dedans, là, les conservateurs, là, pour nous répéter la cassette de l'abordabilité, et que Mark Carney ne livrait pas la marchandise avec les Américains. C'est ça, les messages de base. Mais plus spécifiquement sur l'élection partielle dans Chicoutimi, il faut comprendre que les conservateurs, eux, les groupes d'âge qui votent le plus fort pour eux, c'est les jeunes. Et c'est quoi le défi avec les jeunes?
Les faire sortir.
Pour qu'ils aillent voter. Parce que c'est pas les taux de participation les plus impressionnants. Alors que Mark Carney va beaucoup plus pogner avec les personnes plus âgées. Le Bloc québécois, plus Génération X, un peu entre les deux. Donc, de faire des élections en plein été, alors que le scrutin va être carrément dans la rentrée scolaire et qu'il y a un overlap, un empiétement sur la campagne québécoise, mais c'est sûr que Mark Carney fait le pari que les groupes d'âge qui appuient les conservateurs
ne
seront pas là.
Il l'a dit, c'est parce que ça prend des députés au Parlement.
Ah oui, c'est vrai.
Il n'y a rien de stratégique là-dedans. Là.
Non, c'est toutes des bonnes
intentions. Je comprends que toi, tu penses toujours stratégie dans ta tête.
C'est mon esprit mal tourné.
C'est ça, parce que Mark Carney le dit, c'est parce que les citoyens se doivent d'être représentés, sinon ça ne sert à rien le Parlement. Là.
Parce qu'ils travaillent pour l'abordabilité.
L'abordabilité.
Voilà.
Merci beaucoup, Antonine. Au retour, on fait un tour des grosses nouvelles de la journée avec Mathias Turcotte. Vous écoutez Le Retour à Boulevard 102.1. Antonine, Mathias et Max avec vous jusqu'à 18h. 88-971-102 si vous voulez réagir par texto. Le Retour. 15h24 dans Le Retour à Boulevard 102.1. Sur les routes, c'est vraiment pas si mal là, présentement. Il semble y avoir un incident sur la 20 Ouest à mi-chemin entre route du président Kennedy et chemin des Îles. Ça cause un ralentissement. Sinon, Capitale-Est, dans le coin de Robert-Bourassa, vers Pierre-Bertrand, il y a du rouge aussi pas mal sur la carte, mais généralement, ça semble être assez léger sur le réseau. À la météo, 21 degrés actuellement à Québec, généralement nuageux. On semble pas pire s'en sauver pour ce qui est de la pluie. On devrait en avoir un petit peu ce soir, mais rien de catastrophique. 26 ressentis. Demain, jeudi, 24 degrés, 30 % de possibilité d'averse. Vendredi, c'est pas mal la plus belle journée de la semaine, alternance soleil nuage, 26. Samedi, 26 nuageux. Dimanche, 26 avec de la pluie intermittente. Même chose pour lundi, mais avec un mercure un petit peu inférieur, soit de 23 degrés. Mathias Turcotte, dans l'actualité, les nouvelles, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent aujourd'hui?
Oui, bien, je commence par vous souligner que la chasse à l'homme est toujours en cours à Shawinigan. On est maintenant dans la quatrième journée. On recherche toujours Philippe Benoît, 41 ans, qui est maintenant accusé de meurtre au premier degré envers son fils Ryan Deschenaux, 16 ans. On avait retrouvé le corps de son fils chez lui dimanche dernier. Ce qu'on sait pour l'instant au cours des recherches aujourd'hui, ce qui a évolué, c'est que la Sûreté du Québec a demandé des images de caméras de chasse pour tenter de localiser Philippe Benoît, mais on n'a pas encore de pistes concernant l'homme de 41 ans. En parlant de judiciaire puis de dossier qu'on va suivre pour vous, on est dans la dernière journée du procès de Luciano Fratolin du côté de l'État de New York. Cet homme-là qui est présentement accusé d'avoir noyé sa jeune fille de 9 ans à l'époque, il y a de ça un an environ, les événements qui s'étaient produits en juillet 2025. Hier, la mère de la fillette qui avait témoigné devant le jury. Aujourd'hui, c'était un des sergents de police qui était sur place pour retrouver la fillette, un des sergents de police qui faisait partie de l'équipe de plongeurs dans ce dossier-là. Donc, normalement, le procès qui se termine aujourd'hui, par la suite, il y aura délibération du jury. Le chef du Parti libéral, Charles Millard, qui est sorti aujourd'hui dans le but de critiquer un peu la façon de faire de Christine Fréchette concernant la gestion des relations canadiennes. De son côté, on veut mettre de l'avant une relation plus présente avec les autres provinces, faire une tournée canadienne, des rencontres chaque mois entre des ministres québécois et des ministres ontariens si jamais on est élu. Christine Fréchette qui a réagi sur ses réseaux sociaux en dénonçant de son côté l'approche timide et fédéraliste de M. Milliard. Le programme de thermopompe gratuite d'Hydro-Québec lancé il y a de ça quelques semaines a déjà été suspendu par la Société d'État parce qu'on a reçu plus de 30 000 demandes. En gros, ce qu'on mettait de l'avant, c'était que la Société d'État, avec l'aide de, justement, Québec et Ottawa, voulait offrir 20 000 thermopompes gratuites aux ménages à faible revenu. Puis là, quand on parle de ménages à faible revenu, là, pour une personne seule, c'est un revenu annuel de moins de 59 000 $. Donc, vous comprendrez que les demandes de thermopompes se sont multipliées. On est rendu à 30 000, on avait mis 20 000. On a donc mis le projet sur pause parce qu'on a déjà atteint le nombre suffisant. Le gouvernement de Mark Carney qui abandonne les redevances de 5 % imposées aux géants de diffusion américaine comme Netflix et Prime Video. Puis ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est qu'initialement, il y a de ça quelques mois, le CRTC qui voulait faire passer de 5 % le chiffre à 15 % des redevances pour les géants américains. Mark Carney qui avait demandé qu'on recule en disant on va vous donner 600 millions puis on va pas augmenter les taxes sur les géants américains parce qu'on est en train de négocier avec les États-Unis en ce moment. Là, on vient retirer tout simplement le 5 % qui est imposé à ces mêmes géants américains-là. Du côté de Mark Carney, on ne dit pas nécessairement pour négocier, pour améliorer nos relations avec les États-Unis. C'est simplement dans un effort d'abordabilité pour les consommateurs canadiens. Mais ça amène plusieurs questions. Puis en même temps, on a certains vents du terrain comme quoi c'est pas vraiment ça qu'on nous dit du côté du gouvernement canadien. Ça devient bien dur d'émêler tout ça dans ce dossier-là.
Voici ce que Mark Carney avait à dire.
Nous avons décidé juste après les décisions du CRTC que c'est une question, et je viens de le dire, le gouvernement fédéral consente sur l'abordabilité sans relâche. Et la forte augmentation des primes pour des streamers, ce n'est pas acceptable dans la situation.
Le fédéral a annoncé aujourd'hui un investissement de 2 milliards de dollars pour renouveler le parc de locomotives longue distance de Via Rail. C'est 45 locomotives de Stadler, un constructeur suisse, qui seront assemblés ici du côté de Montréal, donc au Québec. C'est 350 millions de dollars qui seront investis par le gouvernement du Canada pour justement construire la nouvelle installation d'assemblage à Montréal. Je fais un petit tour à l'international avec deux nouvelles pour terminer. Tout d'abord, je vous disais plus tôt cette semaine que le baril du pétrole était à la baisse. Bien, on est reparti à la hausse parce qu'il y a eu certaines frappes américaines cette nuit du côté de l'Irak pour cibler des groupes terroristes reliés à l'Iran. Puis un peu plus tôt aujourd'hui, le président américain Donald Trump qui a aussi écrit sur ses réseaux sociaux qu'il allait frapper l'Iran fort. Donc, vous devinerez que le baril de pétrole est reparti à la hausse. Et je termine en vous faisant une petite mise à jour concernant le séisme d'hier au Japon. Un séisme de 7,1 de magnitude. On parle de 13 morts, le bilan actuel. Ça pourrait augmenter au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. On recherche toujours plusieurs personnes qui seraient piégées dans les décombres d'un centre commercial.
Merci beaucoup, Mathias. Au sport, la NBA qui a annoncé aujourd'hui que les Jeux du Canada de la NBA 2026 allaient mettre en vedette deux matchs préparatoires entre les Raptors de Toronto et le Heat de Miami. Un au Centre Vidéotron à Québec, puis un autre, cette fois, entre les Raptors et les Clippers du côté du Rogers Arena de Vancouver. Ça, ce sera le samedi 10 octobre. Et pour ce qui est du match à Québec, le 3 octobre, ben, ça va être le tout premier match de la NBA disputé à Québec. Fait quand même cool comme nouvelle. Les billets qui seront mis en vente à partir du jeudi 20 août. Évidemment, ça va rester un match préparatoire, vu qu'on n'est pas assuré que toutes les vedettes des deux clubs, là, du Heat et des Raptors, seront habillées, mais il y aura certainement quand même des joueurs de qualité.
Penses-tu que ça va remplir le centre Vidéotron?
D'habitude, tu sais, Montréal, d'habitude, ils n'ont pas de problème là, pour quand ils font des matchs à remplir ça. Un match Raptors, Heat,
vu que c'est juste un match, que ça arrive jamais là, ouais. Que la NBA vient jouer ici, c'est quand même un bel événement.
Ouais, vraiment. Non, je pense qu'on va remplir sans trop de problèmes. En tout cas, je pense que la ville de Québec aurait intérêt à répondre présent.
Ah, 100%.
Comme pour n'importe 100%. Quel événement sportif. Je pense que plus tu montres qu'on est une belle ville de sport, ben plus après ça, tu vas attirer des événements de genre-là. Mais je suis pas trop... Je suis pas trop inquiet. Dans la LNH, McLean Celebrini deviendra le joueur le mieux payé en 2027-2028. C'est entendu avec les Sharks de San Jose sur une prolongation de contrat de 5 ans, 18,8 millions par année qui va entrer en vigueur en 2027. Il pourrait devenir agent libre sans restriction à 26 ans. Puis à ce moment-là, il va probablement signer avec l'augmentation du plafond et tout ça, un genre de 26 millions par année. On verra rendu là. Défaite de 8-6 des Blue Jays de Toronto hier face aux Nationals de Washington. La série qui se décide donc cet après-midi avec un autre duel entre les deux clubs et actuellement les Blue Jays de Toronto qui viennent de prendre les devants 2-1 face aux Nationals. On est en début de 8e manche. Et pour nos capitales de Québec, en raison des mauvaises conditions météo, la rencontre d'hier soir à Trois-Rivières a été annulée, remise à aujourd'hui dans le cadre d'un programme double. Le premier match débutera donc à 17h. Antonine, t'as fait de la TV dans les dernières heures. Ben, quand je dis t'as fait de la TV, parce que des fois t'en fais pour vrai, t'en as regardé.
Exact. Puis il fait pas très beau ces jours-ci, fait que je me suis dit que j'allais vous partager certaines suggestions. Moi, je suis très fan des documentaires True Crime, évidemment. D'ailleurs, avez-vous vu la trend présentement sur les médias sociaux? La personne s'assoit, met son micro, il y a le violoncelle de Netflix et il explique qu'il est en train de s'installer pour son documentaire. Il faudrait bien qu'on en fasse un pour embarquer dans la trend, nous aussi. Donc, j'en ai écouté des vrais, des documentaires. Le premier, c'est A Toxic Love Story, Amour et machination sur Netflix. Une histoire complètement folle. Ça se passe en Californie. Généralement, les histoires folles, c'est beaucoup aux États-Unis quand on regarde ce genre de documentaire. C'est l'histoire d'un complot très, très élaboré de vengeance. Donc, une espèce de triangle amoureux. Sous le pseudo Lilith, l'ex-copine d'un marshal américain envoie des courriels menaçants à la nouvelle blonde du gars.
Ah.
Vous comprenez? Elle mettait en ligne des annonces sur Craigslist pour trouver quelqu'un qui irait la violer.
Hein?
OK, donc, par exemple, c'est comme si l'ex à mon chum mettait des annonces sur Craigslist en mon nom. Pour dire « j'ai un fantasme de me faire violer, je cherche quelqu'un qui va rentrer chez moi, qui va pas écouter mes protestations, même si je dis non, que je veux pas, en fait, je veux, et qui va me violer. » Donc, c'est vraiment d'organiser un complot pour qu'une femme se fasse violer contre son gré en faisant croire qu'elle a donné son consentement, finalement. La femme est arrêtée. Donc, l'ex comme tel qui aurait envoyé les courriels est arrêtée, est condamnée, est envoyée en prison. Et là, au fur et à mesure du documentaire, tu te rends compte que c'est la nouvelle blonde du gars qui est complètement cinglée.
Ah ouais!
Qui est une menteuse compulsive et qui a tout orchestré pour que l'ex de son chum se fasse condamner. Et tu te rends compte que cette femme-là a fait semblant d'être enceinte à certains moments. T'as des témoins qui disent « Oui, moi, je l'ai connue. » Puis elle nous disait qu'elle était enceinte de jumeaux, puis c'était pas vrai. Tu te rends compte qu'elle a fait semblant d'avoir le cancer pendant un bon moment. Donc, tu te rends compte finalement que c'est elle qui a tout orchestré. Finalement, les policiers s'en rendent compte également. Et elle est condamnée, elle plaide coupable et elle se retrouve en prison. Mais il y a un autre coup de théâtre que je dirai pas.
OK.
Mais finalement, le complot est encore plus compliqué que ça.
A Toxic Love Story sur Netflix.
You might remember this story with a twisted plot. The strange and violent stalking case.
A jealous wife, romantic rivals, blackmail.
I wish everyone would just tell the truth. Ian always wanted to be married and he wanted to have kids. Angela wanted the same thing.
Tu me l'as bien vendu.
Bon. Alors, j'arrête là pour pas divulgâcher.
Puis Netflix sont tellement bons pour faire des documentaires de même qui t'emmènent quelque part. Puis là, tu commences à te dire, OK, c'est ça qui s'est passé. Puis d'un coup, bam, on t'arrête. Puis t'es comme tout surpris de la révélation. Là, moi, c'était numéro inconnu, là, texto toxique. Ben, la mère puis sa fille.
Catfish? Ouais, c'est ça. C'est gros, j'étais en train de le chercher pour me rappeler du titre parce que moi aussi, ça m'avait garoché à terre. Unknown Number de High School Catfish.
On dira pas le punch, là, mais il y a beaucoup de vidéos sur les médias sociaux juste de gens qui réagissent à le plot twist là, dont il est question dans celui-là. Mais je vous dirais que A Toxic Love Story, c'est quand même... Tu sais, c'est bon, mais c'est celui avec dont on parle présentement de Catfish, là, c'était une petite couche au-dessus, mais je vous le recommande lors d'une soirée de pluie. Et j'en ai écouté un deuxième dans les derniers jours qui est, pour sa part, là, sur Prime Video, « The Other Mrs. Jordan Catching the Ultimate Conman ». Donc, l'autre Madame Jordan à la recherche du... je ne sais pas comment ils l'ont traduit, là, je faisais une traduction au libre, là, à la recherche d'un arnaqueur ultime. Une autre histoire complètement folle qui me fait dire que vraiment, il y a des gens qui font des complots tellement élaborés pour commettre leurs crimes, ça doit être fatigant, là. Ça doit être vraiment compliqué à gérer. Donc, c'est une femme, une Anglaise, en fait, une Écossaise, qui rencontre un homme sur un site de rencontre qui s'appelle Will Jordan. De fil en aiguille, elle le marie. Il emménage très rapidement, il se marie, ils ont même des enfants. C'est un gars qui dit avoir une carrière dans les TI. Mais il y a des longues absences. Des fois, il disparaît, puis il dit « ouais, c'est pour mon travail », etc. Il disparaît pendant des semaines. Il a manqué son mariage, d'ailleurs, une fois. Il a manqué la naissance d'un de ses enfants. Et il justifie le tout en disant, ben, éventuellement, en disant à sa femme « écoute, je travaille pour la CIA ». Donc, déjà, tu dis « OK ». Puis la fille a dit, tu sais, je sais que vous vous dites, moi, j'aurais pas cru à ces histoires-là, mais il m'a amené des preuves. Notamment, elle a rempli des formulaires comme conjointe de personnes qui travaillent à la CIA pour se faire, donner une autorisation pour obtenir certaines informations sur où était son mari à certains moments. Elle reçoit des appels de la CIA qui sont en fait le gars qui finalement rentre...
Qui prend des voix?
En fait, ça passe par un site web, tu reçois des messages. Bref, c'est quelque chose qui est assez facile à reproduire. Et un jour... elle reçoit un appel d'une femme qui lui dit « Allô, c'est Madame Jordan? » Elle dit « Oui. » Elle dit « Bonjour, je suis l'autre Madame Jordan. » Et là, tu te rends compte que le gars a de multiples relations à travers le monde. Donc, c'est pas pour rien qu'il disparaît pendant des mois.
Parce qu'il n'y en avait pas juste deux, là.
Non. Et il... tu sais, ça va loin parce qu'ils les arnaquent, là, ces femmes-là. Ils prennent de l'argent et les femmes se retrouvent vraiment, certaines, dans une détresse assez importante en termes financiers et aussi en termes psychologiques. Ça va tellement loin qu'il leur fait des enfants.
OK, fait que lui, il y a de multiples familles dispersées un peu partout à travers le monde.
Oui! Tu sais, vouloir voler de l'argent à quelqu'un, OK? Tu y fais des enfants? Fait que bref, je vous dis pas tous les détails, mais c'est vraiment une histoire fascinante qui fait penser aussi aux histoires de pères à répétition. Là. Il y avait eu, il y a quelques années, un documentaire sur un homme qui essayait de faire le plus d'enfants possible, il rencontrait le plus de femmes possible. C'était en Europe, puis on se rendait compte qu'il y avait à peu près 200 enfants. Là. Le gars, ça semble être un comportement qui est quand même récurrent là, chez certains types de personnes. On a vu au Québec aussi l'histoire du donneur de sperme en série là, qui...
Ah ouais, c'était lui, il était avec son père. Hein?
Un père et un fils qui donnaient leur sperme à tout le monde sur Marketplace et qu'on se rend compte qu'ils ont des centaines d'enfants. D'ailleurs, je pense qu'il y avait confirmé qu'il y avait même certaines maladies génétiques dont ils étaient porteurs. Puis des femmes qui étaient vraiment désespérées d'avoir des enfants achetaient ce sperme-là sur le coin de la table. Donc, bref, je vous le recommande aussi. The Other Mrs. Jordan, disponible sur Prime Video.
Je vais vous raconter, recommander un documentaire que j'ai pas vu.
Mais ça, c'est drôle.
Je reçois un appel cette semaine, un matin, je suis en train de me brosser les dents pour m'en venir à la job, puis là, mon père m'appelle de temps en temps, mais tu sais, pas à tous les jours non plus, fait que là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, je réponds, puis là, il parle. « Hey, t'as-tu vu le documentaire, là, sur Yacht? » Je dis, non. « Québec quelque chose, là, Québec. » Puis là, je m'en vais. « Québec crash. » Oui, c'est ça. « Québec crash. Les millions disparus. » C'est sur illico. Puis là, j'ai la description ici. Là. Pierre-Olivier Zappa raconte un des plus grands fiascos financiers du Québec sur lequel la journaliste Catherine Lamontagne a enquêté. Trahi par un ami, des gens d'affaires qui se sont laissés séduire par la promesse de rendement mirobolant avant que tout ne s'écroule, sont prêts à tout pour récupérer leurs millions perdus. Ces investisseurs floués reviennent sur cette histoire où la confiance et l'amitié se heurtent aux batailles judiciaires.
Québec, ce que je retiens, c'est que même si tu es informé, même si tu travailles dans le milieu des affaires, tout le monde peut se faire avoir.
Un important, très important promoteur immobilier de Québec se met à l'abri de ses créanciers pour plus d'un milliard de dollars.
Une des plus grosses faillites de l'histoire du Québec.
C'est du gros cash, là.
Du gin, pas de l'eau.
Le groupe UA, c'était un empire.
C'était vu comme étant un success story.
Les grosses bouteilles de vin, le chalet, les résidences, les autos, les voyages.
Beaucoup d'hommes d'affaires de la région de Québec se sont laissés séduire par des rendements mirobolants.
Je sais pas si certains l'ont vu, mais Québec crash, les millions disparus là, sur la saga Stéphane Huot, 88-971-102. Je serais bien curieux d'avoir votre avis, mais mon père a trippé raide, en tout cas.
En tout cas, on a un auditeur qui nous dit « Excellent documentaire à voir absolument ». Fait que je vais mettre ça sur ma liste aussi.
Au retour de la pause, je vous parle d'un article que j'ai vu ce matin dans le journal qui m'a fait questionner un peu... Ça ferait de lui un héros. Elle supplie Luc Poirier de sauver sa maison du 18e siècle. Puis là, je me dis, c'est quoi le rapport?
Puis là tu
lis le texte, puis là, tu finis le texte, puis tu dis, c'est quoi le rapport? Pourquoi faudrait qu'un homme riche qui a fait fortune sauve une maison ancestrale? Puis, tu sais... Là, je fais ça gros. Il y a certains liens quand même de pourquoi elle lance lui en particulier.
Oui, parce que mon sol est à refaire aussi. Non, je ne sais pas si Luc Poirier peut me sauver.
Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. 88-971-1021. Est-ce que les gens riches ont un certain devoir de redonner? Ou bien si pour vous, ben je veux dire, ce genre-là a fait son argent. Ce monde-là a fait son argent puis peut bien faire ce qu'il veut avec. Puis ça n'a pas rapport de leur demander plus que ce qu'ils donnent déjà avec les taxes et les impôts. Je vous raconte l'histoire au retour. Vous écoutez Le Retour de Boulevard, 15h44.
Le Retour.
15h48 dans Le Retour de Boulevard 102.1. Antonine?
Oui?
T'es une travailleuse autonome accomplie, on te voit toujours à TV, t'es partout, tu dois faire du cash pas mal?
Non.
Moi, je pense que oui.
Tout est relatif, là.
J'ai des travaux à faire chez nous, ça me coûte cher. Tu m'aiderais-tu un petit peu?
Moi aussi, j'ai mon sous-sol à refaire.
OK, ben demande à plus riche que toi.
OK.
Puis on va tout faire ça. Fait que comme ça, à un moment donné, on va se rendre...
Le message est lancé.
Ouais. Fait que...
As-tu choisi ton riche pour payer tes rénaux?
Ben c'est toi.
Non, c'est ça. Je pense que tu peux trouver plus riche un peu.
Bon. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui l'a trouvé son riche. C'est Teresa Crackus Cunningham qui, elle, dit « Luc Poirier devrait sauver ma maison ancestrale. » Ça vaut 1,75 million. Fait que, t'sais, c'est pas n'importe qui peut acheter ça. Puis Luc Poirier détient le terrain à côté. Fait que ce serait à Luc Poirier de me donner à peu près 2 millions pour sauver ma maison.
OK.
Je vais vite, là. Mais si vous lisez le texte dans le journal, c'est à peu près ça qu'on en retient. Et le titre est parfait, là. Ça ferait de lui un héros. Citation de la madame.
Pas de pression, tu sais.
Elle supplie Luc Poirier de sauver sa maison du 18e siècle.
Ben, c'est vrai que ça serait un beau geste d'investir dans du patrimoine bâti, c'est sûr. Puis c'est pas facile d'être propriétaire privé de quelque chose de patrimonial. J'ai quand même de l'empathie pour la situation.
Moi aussi, en passant. Puis
Mais...
je pense que des demeures comme ça méritent d'être sauvées puis qu'il faut en prendre soin. Puis... Mais je pense qu'il y a certaines façons de faire aussi qui peuvent être autres que de dire « Hey, le milliardaire, tu devrais acheter ça. »
Oui, c'est ça. Comme si, dans le fond, vu qu'il a réussi, il nous doit quelque chose.
Mais on dirait qu'on est de même au Québec, hein?
Bien, puis c'est normal parce que, tu sais, la réussite des gens, oui, elle est due à leur travail, à eux, à l'effort qu'ils ont mis. Mais il y a un environnement dans lequel tu évolues, peut-être que... Puis là, je veux pas parler de Luc Poirier comme tel, il y a un documentaire, là, vous l'écouterez, là. Mais tu sais, moi, par exemple, je suis pas riche comme Luc Poirier du tout. Mais j'ai amélioré mon sort par rapport à ce que la vie m'avait donné comme condition quand je suis née, OK? Je le dois à des études universitaires qui sont abordables au Québec, un filet social, puis à toutes sortes de choses, des rencontres, des gens, puis mon travail aussi. Moi, c'est sûr que... Je me dis, quand tu réussis au Québec, tu veux redonner au suivant. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Ben, premièrement, on paye beaucoup d'impôts. Là. C'est déjà quand même quelque chose d'intéressant pour redonner au suivant.
Et Luc Poirier doit en payer beaucoup.
D'après moi, il doit payer une bonne part d'impôts. Deuxièmement, ben, tu peux t'impliquer pour des organismes, de la philanthropie. La plupart des gens aisés, là, je te dis pas qu'ils sont parfaits puis qu'ils sont merveilleux, toute la gang, mais la plupart vont avoir des implications caritatives. Peut-être qu'il y en a une couple qui n'en ont rien à secouer puis qui n'en font pas, mais il y a cet aspect-là. Maintenant, ben, il peut avoir des implications très précises. Je me rappelle, il y a une couple d'années, est-ce que tu connais la clinique SAPSA à Québec, clinique d'infirmières? Il y a un donateur qui n'a pas donné son nom, qui a fait un don anonyme il y a quelques années quand la clinique était menacée de fermeture. C'est un homme d'affaires québécois assez aisé qui a décidé de signer un chèque à un moment donné puis de sauver la clinique.
Puis on n'a jamais su c'était qui.
Non, puis c'est la preuve que ça vient vraiment d'une bonne place parce que c'était pas pour se faire de la publicité puis pour donner un chèque géant en plastique là, pour des photographies. Donc oui, on peut s'attendre à ce que les personnes aisées de notre société redonnent au suivant. Maintenant, quand j'ai lu cet article-là ce matin, j'ai eu à peu près la même réaction que toi. Je me disais, oui, mais c'est quoi le rapport, dans le fond?
Mais c'est qu'au-delà de ça, il y a d'autres options. Puis le journal a parlé au maire de la municipalité, qui s'appelle Ludovic Grisé-Farran. Puis lui, il dit, hey, nous autres, en tant que ville, on pourrait l'acheter si le prix de la maison était plus bas. C'est une maison qui a été évaluée à 443 000 en 2023, 170 000 pour la maison, fait que ça comprend le terrain, ce qu'on comprend. Puis ça nécessiterait, pour être restauré, 800 000 de travaux. Fait que la ville dit on pourrait l'acheter puis faire les travaux de restauration et tout ça. Mais c'est qu'à un moment donné, là, c'est des prix qui n'ont plus de besoin. Là. Puis le maire le dit mot pour mot. Nous pourrions l'acheter pour lui redonner ses lettres de noblesse, mais à titre de représentant de nos citoyens, c'est pas un projet dans lequel on peut s'engager à n'importe quel prix.
Ben c'est ça. Puis il l'achèterait, ce serait plus à elle, là, la madame, là, la maison. Là. Fait qu'il faudrait qu'elle accepte de s'en départir, dans le fond. Mais est-ce que c'est le rôle des municipalités de commencer à rénover les maisons? Puis, tu sais, le patrimoine, c'est un dossier compliqué. Parce que tout le monde veut sauver des affaires. Là,
mais t'sais. Ça coûte cher.
Ça coûte cher, mais tu sais, c'est quoi aussi du patrimoine? Une vieille grange en bois qui est en train de tomber sur le côté, c'est-tu du patrimoine? On a au Québec une histoire qui est récente là, de bâtiments. T'sais, on n'a pas de Moyen-Âge ou d'Antiquité là, au Québec. Là, donc, les bâtiments sont relativement récents. Il y a eu le dossier des églises aussi. Il y a une époque où on avait beaucoup, beaucoup construit d'églises puis qui servent un peu moins. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, c'est une patate chaude un peu, là, le patrimoine. de bâti au Québec.
Puis ton point est intéressant parce que cette maison-là, à part avoir été construite en 1779, là, de ce que je comprends, a rien de bien spécial. Je dis pas que c'est une raison pour laisser ça mourir puis détruire ça puis laisser le terrain.
Ça n'a pas été, mettons, la maison d'un patriote.
En tout cas, si oui, on n'a pas cette information-là. Tu sais, c'est une... Écoute, c'est une belle maison, ça doit être super cool d'habiter là-dedans.
Puis il n'y en a pas des tonnes. Des maisons du 18e siècle en pierre qui tient encore debout, c'est vrai qu'il n'y en a pas des tonnes. Moi, j'y vois une certaine valeur. C'est juste la manière de faire. C'est comme, moi, je vais aller dans le journal, les deux bras bien croisés devant ma maison, puis je vais dire, moi, je pense que Luc Poirier devrait payer mes rénaux. Merci.
Il a répondu à la dame, Luc Poirier, en disant, jamais de la vie. On avait regardé quand il l'avait mis en vente, je pense qu'il demandait 1,2 million.
C'est évalué à 400.
Okay. On ne s'est pas montré intéressé. Puis lui, ce qui renvoie à balle à la ville, qui l'a prise, la balle en passant, là, je vous parlais des propos du maire il y a quelques instants, s'il voulait vendre à un prix plus bas, bien probablement que la ville l'achèterait, ne serait-ce que pour acheter à paix avec la madame.
Oui, puis elle s'achèterait à paix aussi, dans le sens ben que c'est vrai que ça coûte cher, rénover des maisons patrimoniales.
Qui dit à madame d'arrêter de rêver, de vendre au meilleur prix, dit que déjà il y a 3 ans, il demandait le double de sa valeur, puis que si cette maison-là t'est affichée au bon prix, ça ferait longtemps qu'elle serait vendue.
Mais excuse-moi, comment qu'on peut prendre cette madame-là en pitié, là, à se plaindre que personne n'achète sa maison, puis après ça, elle la met en vente à 1,2 million de dollars?
C'est ça. C'est ça. Mais je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui apprennent en pitié.
C'est 3 fois la
aujourd'hui.
Valeur de sa maison. Je veux dire, si elle veut vendre sa maison, qu'elle baisse le prix de sa maison.
Il y a aussi, à un moment donné, la valeur que tu penses que quelque chose a, parce que toi, ça a une valeur pour toi.
Puis parce qu'elle a dit qu'elle l'a fait évaluer aussi, puis que là, avec l'histoire et tout ça, c'est ça la valeur que ça a.
Bon, il y a une autre affaire, là. Pourquoi ça, c'est dans le journal aujourd'hui? Ben, premièrement, vous allez me dire, on est au mois de juillet, puis c'est relax. Là.
Deuxième semaine des vacances de la construction serait ma réponse.
C'est une bonne partie de l'explication, mais aussi parce que Luc Poirier, c'est un personnage qui peut être un petit peu polarisant. Au Québec, on aime bien ça,
ça
là,
fait
haïr
cliquer.
Nos riches. Là, ça fait cliquer. Vous rappelez-vous de l'histoire de la voiture, la personne qui s'était blessée sur une voiture supposément à Luc Poirier? Finalement, tu cliquais un peu sur le titre, puis ça n'avait rien à voir avec Luc Poirier, pantoute. C'est un concessionnaire de Ferrari qui était en cause dans cette histoire-là, qui avait été là, grièvement blessé quand il avait essayé la voiture ou, bref, regardé la voiture en ouvrant le capot et tout ça. Mais finalement, ça n'avait aucun rapport avec Luc Poirier. Puis dans le titre, c'était comme « Grièvement blessé par la voiture de Luc Poirier ». Puis là, évidemment, ben, on va tout cliquer parce que c'est la course au clic.
Mais finalement, c'était quoi le lien avec Luc Poirier? Parce que j'ai l'article, puis même là, on dit grièvement brûlé dans son établissement par une Ferrari de Luc Poirier.
C'est que la voiture
était à Luc Poirier.
Ouais, mais était dans le concessionnaire.
C'est ça. Elle n'était pas la responsabilité de Luc Poirier au moment où les faits sont arrivés. Donc là, on clickbait en
on a utilisé son nom.
C'est ça. Ça fait vendre la copie.
Mais ça revient à ce qu'on disait dans ta chronique communication hier,
exact,
sur le sensationnalisme. Mais tu sais, ça fait en sorte que au fil du temps, j'ai l'impression qu'il y a une confiance qui se perd au sein de la population envers nos médias.
D'accord avec toi. Puis, tu sais, on travaille dans les médias. On fait probablement des choses, des fois, que certaines personnes peuvent trouver ordinaires. Puis c'est bien correct. Mais moi, je pense qu'on a la responsabilité dans les médias de se regarder un peu dans le miroir. Et quand tu mets quelque chose de sensationnel dans le titre, puis que les gens cliquent et lisent l'article, puis se disent, voyons, c'était un clickbait, moi, je pense que ça baisse la confiance envers les médias. Moi, il y a une affaire qui me tape sur le chou et je veux vous en parler. C'est quand des médias titrent, là, mettons, ils vont tweeter ou publier l'article sur les plateformes. Puis là, c'est genre, on a retrouvé 1000 chiens dans un sous-sol et 8 enfants qui étaient dans des cages. Puis là, tu te dis, ben voyons donc. Là, tu cliques là-dessus, tu te rends compte que c'est en Alabama. Mais j'aimerais ça qu'ils le mettent dans le titre.
Qu'ils précisent que c'est pas ici.
Oui, ils font exprès, là, on est toujours, ben voyons donc. Puis là, tu cliques, puis tu te rends compte que c'est à l'autre bout du monde. Puis t'es comme, c'est pas que ça m'intéresse pas une nouvelle internationale, je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, mais les faits divers glauques, je vais attendre le documentaire sur les plateformes de streaming. Merci.
Au retour, vous devinerez jamais à qui on parle. Le retour de Boulevard.